Bonjour et bienvenue dans Les Souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies en CFM. Et cette semaine, alors nous allons être à fond dans la nouvelle technologie puisque nous allons parler cuisine connectée en premier dossier. Donc on va voir comment utiliser les nouvelles technologies pour faire la cuisine. Et une fois que vous aurez renversé des ingrédients sur cette nouvelle technologie, on verra comment là s'en débarrasser. Qu'en faire avec Guillaume et qui va nous parler de l'obsolescence programmée, qui est un mot un peu barbare, mais vous verrez... Derrière, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Bah, bien sûr, avant tout ça, Thibaut va nous faire l'actu de la semaine qui, comme chaque semaine, est assez chargée.
Oui, assez chargée. On aura les Français Internet, on aura de la téléphonie avec Orange et on aura le petit logiciel de la semaine.
Voilà, mais avant tout ça,
avant
quand
tout
même,
ça, il y aura une musique avec Mad Matta, Lambé Andro en CFM.
Viens donc faire un tour à Lambé.
Si tu cherches un peu la gaieté, viens donc faire un tour à Lambé.
Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé.
Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé.
Y'a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à Lambé. C'est pour mes lots, y'a plus d'entrée, viens donc faire un à Lambé.
Si pour Mello, y'a plus d'entrée, va nous faire un tour à Lambé.
De retour dans Les Souris ne mordent pas en CFM, donc nous allons entamer cette semaine par l'actu. Mais avant, Thibaut, est-ce que tu nous fais un point quand même sur la page Facebook?
Ah bah oui, il faut pas oublier la page Facebook, surtout pas oublier. Donc là, on a atteint 47 fans, une augmentation d'à peu près 9,3%.
C'est pas mal.
Donc on va bientôt arriver à 50 fans. Et
on invitera le 50e dans l'émission.
Allez. En espérant qu'il soit pas au Brésil, parce que ça serait bête quand même. Hein. Alors on va continuer ensuite avec l'actualité de cette semaine. Avec donc les Français et Internet en 2012, l'IFOP vient de réaliser un sondage début février donc 2012 pour l'observatoire Netexplo, www.netexplo.org, sur la place qu'occupe Internet dans la vie des Français. Alors les données collectées ont été collectées auprès de 1006 personnes âgées de 15 à 30 ans et plus. Donc le constat est simple, 8 Français sur 10 se servent d'Internet. Les plus de 65 ans passent désormais le seuil des 50% d'utilisateurs. Les 65 ans et plus, une personne sur deux utilise Internet. En termes de fréquence d'utilisation, 85% des internautes déclarent aller sur Internet tous les jours. et 63% plusieurs fois par jour. Donc, soit 10 points de plus par rapport à 2010. La tranche des 15-34 ans, dans les catégories socio-professionnelles, élevée, la plus connectée et celle dont l'usage Internet est la plus diversifiée. Donc, on va continuer avec ACTA. Donc, cette fameuse loi ACTA. L'Europe va saisir la Cour européenne de justice. Face aux multiples protestations qui rencontrent ACTA, la Commission européenne va saisir la Cour de justice dans le but d'examiner la conformité du traité anti-contrefaçon aux droits fondamentaux. La plus haute juridiction devra déterminer si les règles de protection de la propriété intellectuelle ne bafouent pas la liberté d'expression et le nouveau texte sur la protection des données, qui donc a été porté par Viviane Reding. Cette action ne stoppe pas donc la procédure en cours, mais elle va sérieusement la freiner quand même.
Puisqu'on parle d'ACTA et de toutes ces lois-là qui arrivent en ce moment, quand même j'aimerais citer un exemple qui a eu lieu la semaine dernière. Un auteur de bande dessinée qui s'est retrouvé perquisitionné et la police lui a pris tout son matériel parce qu'il avait dessiné une bande dessinée qui parlait en fait d'un pédophile. Donc il n'y avait pas d'image explicite dedans, hein, c'était une bande dessinée correcte, mais voilà, hein, ils ont été un peu trop vite en besogne, et donc du coup il s'est retrouvé limite les menottes au poignet, voilà, un exemple de ce que va pouvoir donner ces lois ACTA, LOOPSI, PIPA, SOPA, et on en passe. Donc je pense que on doit faire attention à ces lois-là, et ne pas hésiter aussi à écrire à vos parlementaires, que ce soit députés ou sénateurs, pour leur demander de bien faire attention à ce qu'ils votent. Hein.
Donc ensuite, on va passer au débit des téléphones, donc la téléphonie, avec les débits qui seront bientôt doublés en 3G. Alors Nokia, Siemens devraient faire la semaine prochaine au Congrès mondial du mobile une démonstration grandeur nature de leur nouvelle technologie, baptisée, alors attention, HSPA plus Multiflow. Attention, c'est un peu technique.
Tu nous la refais là.
Voilà, HSPA plus Multiflow, voilà.
Yeah.
Grâce à elle, les temps de réponse du réseau 3G pourraient être réduits de 50%. Et surtout, la bande passante pour les données pourrait être doublée. Concrètement, en fait, c'est si vous avez deux points d'accès 3G pas loin, le téléphone va se connecter aux deux et va donc, de ce fait, doubler la bande passante. Et donc, doubler le débit que le téléphone aura, quoi. Plusieurs inconnus sont toujours à éclaircir, demeurent. Comment les batteries des futurs smartphones s'accommoderont d'un tel débit? Déjà qu'elles sont pas, elles sont pas bien performantes à ce niveau.
C'est vrai qu'on constate avec l'arrivée de Free Mobile qui est en itinérance, hein, c'est-à-dire qu'on se connecte tantôt sur le réseau de Free et tantôt sur le réseau d'Orange, on constate que les batteries de portables faiblissent assez rapidement parce que effectivement elles sont toujours à la recherche du meilleur réseau et que c'est pas bon pour les batteries. Alors j'imagine quand elles le feront tout le temps pour tous les réseaux, ça, ce que ça va donner, quoi. Alors là, les possesseurs d'iPhone, baladez-vous avec un sac à dos batterie parce que vous allez en avoir besoin.
Voilà. La réponse sera donc au second semestre 2013 quand la technologie sera réellement déployée. Alors ensuite, Google prépare des lunettes avec écran et caméra intégrée. Le premier produit issu de Google X, alors c'est un laboratoire où la firme élabore des technologies futuristes, c'est secret un peu, voilà. Alors ça pourrait être une paire de lunettes capable de diffuser de l'information sur le globe oculaire de l'utilisateur en temps réel. Alors c'est ce qu'affirme le New York Times, qui a obtenu ces informations d'employés de Google familiers du projet. Donc ces lunettes pourraient être vendues dès la fin de l'année à un prix similaire à celui d'un smartphone actuel. Elles seraient basées sur Android, munies d'un petit écran incorporé dans les verres et donc qui disposerait d'une connexion au réseau cellulaire ainsi que capteur de mouvement, et elle sera dotée aussi d'un GPS.
On n'a pas fini d'être en permanence sollicité.
T'imagines, t'imagines en plus s'ils intègrent la technologie, la réalité augmentée là, les pages qui s'affichent dans la rue, là tu te dis oula, alerte Facebook, tic.
Mais ça peut être pas mal parce que vous passez devant un panneau publicitaire, paf, vous avez la vidéo, la publicité qui se diffuse dans la lunette.
Voilà.
Un vrai progrès.
Ouais. Aïe. Alors ensuite, la déferlante Free Mobile, t'en parlais justement, elle n'épargne pas Orange. Alors pour Orange, c'est l'heure des comptes. Et ça pleure un peu chez Orange. L'opérateur dit historique a constaté la fuite de ses clients, donc vers la nouvelle offre lancée par Free Mobile. L'opérateur aurait ainsi perdu plus de 200 000 abonnés en moins de 2 mois. Les prévisions ne sont pas optimistes puisque Orange évalue qu'à la fin du premier trimestre 2012, la perte des clients atteindra 450 000 clients.
Enfin, pas optimiste pour qui ? Pour Orange ? Parce que pour Free, apparemment, ça a l'air d'aller bien.
Non, voilà, oui, tout à fait. Mais pourtant Orange avec n'est pas resté avec les bras croisés comme Bouygues et SFR quand ils ont lancé leur forfait low cost Soch qui a tout de même bon séduit 60 000 clients. C'est pas trop mal. Tandis que les offres traditionnelles comme Origami ont attiré 780 000 nouveaux abonnés. Les efforts conçus par Orange n'ont pas équilibré les départs puisqu'entre le 10 janvier et le 15 février, ce sont 1,03 million de clients qui ont demandé un RIO, donc relevé d'identité d'opérateur, pour aller ailleurs et vraisemblablement chez Free Mobile. Ça s'annonce un peu mal pour Orange pour le moment. Alors ensuite, la presse quotidienne nationale veut taxer Internet. Le syndicat de la presse quotidienne nationale veut faire passer les acteurs du numérique à la rémunération des journaux en ligne. Alors, c'est-à-dire concrètement, tout ce qui est moteur de recherche, portail d'information ou fournisseur d'accès Internet, tout ce qui génère de l'audience pour Internet. En fait, la presse veut taxer tout ce qui est moteur de recherche pour chaque utilisateur qui, par le biais de ces moteurs, irait sur leur site, en fait.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de taxer Internet, ça tombe bien.
Ouais. Voilà, alors le syndicat estime que cette taxe pourrait rapporter entre 140 et 150 millions d'euros par an. Et alors ils espèrent un accueil favorable des candidats à la course à présidentielle pour qu'elle soit votée, cette loi. On espère que ça va pas augmenter la facture des abonnements à Internet.
Ouais, ça serait quand même plutôt les moteurs de recherche qui...
Ça va augmenter la publicité des moteurs de recherche, du coup.
Voilà, oui.
Et ça va profiter aux gros sites d'audience, Le Monde, Le Figaro, et pas les petits, quoi.
On aurait tendance à dire que pour que la presse augmente ses bénéfices, il ferait mieux de parler de choses intéressantes plutôt que de nous rabâcher sans cesse les mêmes sujets complètement inintéressants. Parce que c'est vrai que le nombre de fois que Desca a fait caca dans sa cellule, ça commence à saouler un peu tout le monde, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Alors par contre, le 8 mars 2012, qu'est-ce qui va se passer le 8 mars 2012 ? Ça sera l'apocalypse
totale. C'est la journée mondiale de la femme. Hein.
Ah oui, l'histoire du FBI qui va couper.
Voilà, tout à fait. Alors le 8 mars 2012, plusieurs millions d'internautes pourraient être privés d'Internet. Je sais, c'est triste. Afin d'éradiquer le cheval de Troie DNS changeur, le FBI devrait désactiver plusieurs serveurs DNS. Alors, bon, les serveurs DNS, c'est les serveurs qui servent à établir une correspondance entre l'adresse IP d'un ordinateur et l'URL d'un site, comme cfmradio.fr. Effectivement, donc, quand ils sont tapés par un internaute dans son navigateur. Alors, en contrôlant ce genre de serveur, les pirates peuvent rerouter les internautes vers des sites frauduleux ou encore interférer dans les échanges entre la machine et le serveur. Pour rediriger les internautes vers ces serveurs DNS corrompus, les criminels ont utilisé un logiciel malveillant appelé DNS Changer, donc comme je l'ai dit avant. Ils l'ont utilisé pour modifier les paramètres de l'utilisateur et remplacer le bon serveur DNS du fournisseur d'accès Internet par un mauvais serveur, donc les serveurs de DNS qui étaient aux mains des pirates. Alors pour vérifier une possible infection des machines, des formulaires ont été mis en place par l'agence gouvernementale ou d'autres sites Internet. À cas d'infection avérée, la marche à suivre est indiquée.
Alors, il faut dire quand même que ça peut être assez dangereux puisque vous pouvez, en tapant une adresse internet de votre banque, par exemple, tomber sur un site internet qui n'a rien à voir et qui pourrait avoir exactement le même aspect. Donc, faut quand même montrer que c'est assez dangereux comme.
Voilà, c'est important.
Puis, il faut vérifier des fois l'adresse internet, l'URL du site, où des fois il y a un S en plus, un L en moins, c'est voilà quoi.
Souvent, on conseille aux gens de ne plus taper forcément les adresses directement dans leur navigateur, mais de faire des recherches sur des moteurs de recherche qui se prémunissent un peu quand même de ça et font attention. C'est vrai que ça évite aussi de se tromper dans l'adresse et de tomber sur des adresses mal écrites exprès pour tromper l'utilisateur, quoi.
Alors, je sais qu'on n'en parle pas souvent dans les souris de mort de pas, mais là, on va parler de voitures. Avec donc les robots qui prennent la place du conducteur dans le Nevada, ça se passe donc aux États-Unis, dans le Nevada, et la commission législative du Nevada vient de donner son feu vert à une loi passée l'année dernière qui autorise la circulation de ces voitures sur l'ensemble des routes de l'État. Dès le 1er mars, ces automobiles pilotés par un ordinateur pourront donc rouler sur la route. Alors, seule obligation pour ces voitures, une plaque d'immatriculation spéciale qui sera rouge pour prévenir autorités donc et automobilistes humains du caractère un peu particulier de ce genre de voiture. Quand la technologie sera prête, les plaques passeront à la couleur verte pour distinguer tout de même les véhicules à pilotage automatique des voitures traditionnelles. Tous ces véhicules devront par ailleurs être assurés à hauteur d'au moins $1 million en cas de pépin et d'accident de la route.
Donc si jamais vous croisez une voiture sans chauffeur, ne vous inquiétez pas, c'est pas Ghostbuster qui revient. C'est normal.
Voilà, tout à fait. Alors bon, je suppose, on passe à autre chose, que vous connaissez Street View de Google. Quand vous baladez dans les rues et tout. Et bien là, en fait, c'est le même principe, sauf que c'est dans l'océan. D'ici quelques mois, Internet donc et Google vous proposera une alternative à cette plongée sous-marine en fait. L'université de Queensland, grâce au sponsoring de l'assureur Catlin Group et à un partenariat avec Google, lance Catlin Sea View Survey, une étude destinée à mesurer l'impact du réchauffement climatique sur la Grande Barrière de Corail. Et donc ça va permettre à des millions d'internautes de plonger au cœur de l'océan. Pour l'occasion, les scientifiques ont conçu une sorte de caméra missile capable de prendre donc des images à 360 degrés. Elle sera baptisée 7 en chiffre romain caméra. Le prototype se déplace donc à une vitesse de 4 km/h.
Bon, l'avantage c'est que t'as pas besoin de repasser, en général ça change pas quand même tous les jours quoi.
Voilà. Et donc elle va prendre des clichés toutes les 4 à 6 secondes environ.
Alors après les Google cars sans chauffeur, nous aurons les Google sous-marins sans chauffeur aussi.
Voilà, c'est... Alors on va passer donc c'est une note un peu plus humoristique avec World of Warcraft, le célèbre jeu en ligne, le premier MMORPG pour le moment au monde.
Qu'est-ce qu'un MMORPG?
Un MMORPG, comme l'avait dit un journaliste de France 2, c'est un jeu massivement multijoueur en ligne en fait, où vous pouvez interagir avec d'autres joueurs humains. Alors World of Warcraft serait bénéfique pour notre cerveau. Elle a donc ce jeu améliore les fonctions cognitives de certaines personnes du troisième âge. Telle est la conclusion d'une étude sérieuse menée par un groupe de chercheurs de la North Carolina State University. Dans une période de 2 semaines, un groupe d'une 40aine de personnes âgées entre 66 et 70 ans ont participé à l'expérience. Un groupe donc de personnes a joué 14 heures à World of Warcraft étalé sur 2 semaines, donc 1 heure par jour, et l'autre n'y a pas joué. Au début et au terme des deux semaines, les membres des deux groupes ont participé donc à ce test, et les chercheurs ont remarqué que les personnes qui avaient joué à Warcraft avaient amélioré leur capacité cognitive. En l'occurrence, la mémoire, la concentration et la perception, spatiale. Oula, j'ai du mal. Warcraft serait ainsi bénéfique pour notre cerveau. Une raison de plus pour y jouer, quoi. Voilà.
Alors, c'est bien parce que ça vous améliore le cerveau, mais comme vous sortez plus de chez vous, du coup, vous en avez pas l'utilité.
Voilà. C'est...
Ni la carte bleue. Hein,
ça, voilà. Ça me rappelle l'étude sérieuse qui montrait qu'il était pas bon pour la santé de lire aux toilettes, hein, mais.
Ah ouais. Voilà. Bien qu'il soit impossible de définir la pertinence de cette étude, une chose est certaine, le troisième âge est de plus en plus représenté dans les jeux vidéo et dans Warcraft, parce que je vais vous dire une petite anecdote. Donc il y a Martazon, c'est le pseudo de la personne, qui était maîtresse de guilde et qui était donc chef de raid et qui avait 70 ans.
Il n'y a pas d'âge pour être chef de raid.
C'est fou. Ouais. Voilà, pour l'actu, on va passer
geek,
au...
Geek à 70 ans, quand même.
Geekette, pardon. Geekette, 70 ans, chef de raid.
Il n'y a pas très longtemps, il y avait une vidéo comme ça d'une geekette de 100 ans qui jouait à la Nintendo 3DS qui disait que ça lui entraînait le cerveau et que grâce à ça, elle était opérationnelle et vive d'esprit, quoi.
C'est super, ça.
Mais ils ont montré que certains jeux, notamment sur les consoles comme la Wii, pour les personnes âgées, pouvaient leur aider à entretenir la motricité, à entretenir...
Justement, ils avaient des programmes avec Wii Fit, par exemple, où ils s'amusaient à bouger les bras, les pieds, etc., pour qu'ils gardent une certaine mobilité. Donc, c'est vrai que ça sert. Quoi.
À quand les salles de jeux en réseau dans les maisons de retraite hein. Voilà.
Allez, on va faire une LAN.
Quake.
Un petit Call of. Alors, après l'actu, on va passer au logiciel de la semaine, qui se nomme Yobit Game Booster, en restant dans le monde des jeux, quoi, voilà.
Tu travailles ton anglais, là, c'est ça?
Oui, voilà, c'est par rapport au voyage que je vais faire, donc dans quelques semaines. Game Boost optimise les performances du système de jeu, etc., de votre machine, pardon. C'est un programme assez léger qui juste nettoie la mémoire vive, optimise les performances de votre processeur et ferme tous les processus et services superflus. Le tout en un clic. Et donc, le résultat, c'est une meilleure stabilité et une fluidité de jeu optimale.
Merci Thibaut pour cette actu et ce logiciel de la semaine, donc, qu'on retrouvera chaque semaine. Voilà. Donc après les salles de jeux en réseau dans les maisons de retraite et
et les LAN
et les LAN et les les lunettes qui déshabillifient dans la rue. Donc nous allons faire une petite pause parce que ça fait beaucoup et on revient tout de suite en CFM pour vous parler donc de cuisine connectée et après de j'ai oublié
l'obsolescence programmée.
Voilà, tout de suite en CFM. De retour à Les Souris ne mordent pas en CFM. Donc après cette actu bien chargée, nous allons vous parler de cuisine. Voilà, on va vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Je sais pas si Thibaut, Guillaume, vous faites la cuisine.
Si, si.
Oui, je fais un petit peu la cuisine. Enfin, j'essaie de pas faire brûler ma cuisine plutôt. C'est plutôt ça.
Voilà. Et donc, est-ce que vous utilisez des outils numériques pour faire la cuisine?
J'ai une petite balance numérique, là, où je mets les...
Numérique? Et ouais. Connecté à Internet et tout?
Non.
Une fois, moi, j'avais testé un jeu sur Nintendo DS, justement, où t'avais la recette de cuisine et tu devais suivre, etc. Alors, je l'avais essayé une fois. Ça a donné ce que ça a donné, quoi.
J'ai vu que Nespresso, je crois, cette semaine, allait sortir des cafetières branchées sur Internet. On pourrait directement commander ça. Je sais pas si tu en parlais.
Non. Non, mais... Effectivement, pour commander directement le bon café à Georges Clooney.
Un café moelleux.
Directement. Alors, en fait, une étude éditée par la société Cook, qui édite des tablettes, dont on en parlera tout à l'heure, a montré qu'il s'était vendu en 2008 10 millions de livres de cuisine papier, une hausse de 10%. Donc, comme quoi ça se vend toujours, le livre papier. Mais que seulement 17% des cuisiniers utilisaient encore un livre papier. Alors que 47% utilisaient aujourd'hui un outil numérique pour faire la cuisine. Donc que ce soit une tablette spécifique dont on va parler, ou que ce soit simplement utiliser Internet pour aller chercher la recette. Donc c'est vrai que les sites Internet les plus connus...
Marmiton.
Voilà, Marmiton. Donc voilà, qui est riche de ses recettes. Édite aujourd'hui des applications, que ce soit pour aller sur les smartphones ou pour aller sur les tablettes. Donc vous pouvez avoir une application Marmiton avec toutes les recettes du site et toutes les vidéos du site qui vous permettent de vous connecter. Alors c'est vrai qu'on a souvent parlé dans cette émission de l'électroménager connecté, puisque depuis longtemps hein, on parle d'avoir un frigo connecté à Internet qui puisse commander directement les produits dont on a besoin. Alors il faut savoir que le premier frigo connecté date de 2003, il a été conçu par la société LG, il coûte 15 000 euros. Donc c'est pour ceux qui ont les moyens, effectivement.
Cher le glaçon.
Le directeur d'LG a toujours parlé d'un rêve d'ingénieur en fait qui s'est concrétisé mais qui n'a jamais marché Pour une raison simple, c'est qu'il faudrait que tous les produits soient équipés d'une puce RFID. Donc c'est une petite puce qui permet à votre frigo de reconnaître le produit que vous y mettez dedans, puisque la seule solution aujourd'hui étant de scanner chaque produit devant son frigo avant de le mettre dedans et de le rescanner quand on le sort. Donc donc ça explique pourquoi les frigos connectés ne marchent pas actuellement, mais ils y croient. Donc ouais. Voilà, pourquoi pas bientôt un frigo connecté aux alentours des 2 000 €. On en parle, donc si jamais ça vous intéresse. Alors, un autre souci, il faut savoir qu'un frigo a une durée de vie de 8 à 10 ans.
Ah
je vois.
Je reviens tout à l'heure dessus, sur ce rire diabolique.
Sur le rire.
Voilà, on reviendra tout à l'heure sur l'obsolescence programmée. Voilà. Donc voilà, il faut savoir qu'un frigo a une durée de vie de 8 à 10 ans et que l'écran qui est dans le frigo n'a une durée de vie que de 24 mois maximum.
Chercher l'erreur.
Voilà, ouais, chercher voilà. L'erreur. Et que le jour où vous voulez changer l'écran, ben, on a changé de technologie, on a changé de dimension, on a changé tout, et donc vous pouvez pas changer votre écran.
En gros,
donc,
changer de frigo, quoi.
Voilà, changer de frigo pour pouvoir avoir le nouvel écran et la nouvelle technologie qui va avec. Donc, heureusement, est arrivé dans la cuisine des tablettes. Hein, vous savez tous aujourd'hui que le monde est envahi de tablettes.
De chocolat.
Bien sûr.
D'accord.
Chocolat.
Merci.
Mais alors. Donc voilà, vous savez tous que le monde est envahi de tablettes, hein, de chocolat ou pas, et que bien sûr, bah, les cuisiniers s'en sont emparés pour faire la cuisine, parce que c'est vrai qu'actuellement, avoir l'ordinateur dans le salon avec la recette et faire la cuisine dans la cuisine, c'est pas évident, et que quand vous êtes en train de remuer votre préparation et qu'il faut aller voir la suite. Dans le salon, ça peut être assez problématique. Donc, les tablettes se sont emparées de ça et de nombreuses applications sont sorties. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, notamment par exemple de Marmiton, qui a sorti son application avec 55 000 recettes et pas mal de vidéos qui vous permettent. Alors, c'est vrai que les vidéos apportent un plus par rapport aux livres de cuisine papier, puisque effectivement, quand on vous dit de déglacer une sauce. Bah maintenant on vous montre comment le faire. C'est vrai que c'est c'est un peu plus pratique quand même. Alors il faut savoir que l'application Marmiton est gratuite. Voilà, c'est pour ça que je la mets un peu en avant, mais il y en existe d'autres
sur iPhone et Android.
Voilà, sur iPhone et Android et sur Windows Phone aussi. Ah. Voilà. Alors, il y a d'autres
super.
Il y a d'autres applications qui sont payantes. On en parlera tout à l'heure, notamment une application qui s'appelle Cookineo. De la société Domolib, voilà, qui elle n'est que sur iPhone, donc désolé pour les autres, et elle est payante, voilà. Je le répète encore une fois. Alors c'est vrai que les tablettes dans la cuisine posent d'autres soucis, puisque 40% des utilisateurs de tablettes culinaires, on va dire, hein, même si c'est un iPad, ça se transforme en tablette culinaire, ont été victimes d'un accident domestique au moins une fois. Qu'est-ce que l'accident domestique? Bah, c'est tout simplement renverser une sauce sur sa tablette, la faire tomber ou pourquoi pas la poser sur la plaque chaude. Donc voilà, tout ça, ça n'aime pas trop. C'est vrai que contrairement aux livres qu'on peut laisser sécher, la tablette en général, elle n'aime pas. C'est l'avantage donc d'une tablette spécifique qui s'appelle Cook. Alors Cook, Q2OQ, qui a été conçue pour ça. C'est-à-dire que c'est une tablette riche de 3500 recettes. Vous pouvez en rajouter d'autres vous-même. Et elle a été conçue pour justement résister à la chaleur, puisqu'ils l'ont testée dans un four pendant 72 heures. Elle marche encore. Ils l'ont testé en renversant différents liquides dessus ou en la faisant tomber. Elle a vraiment été conçue pour.
Et elle est sortie, je crois, avant l'iPad, hein, c'est ça. Hein.
Et c'était une des premières tablettes sorties, ouais. Effectivement, elle est sortie avant l'iPad. C'était au tout début que les tablettes ne marchaient pas. Ils ont eu l'idée.
Elle est déjà dans le four, là.
C'est... Voilà. Et donc, c'est vrai que. Alors, elle coûte 349 €. Donc c'est un peu cher pour une tablette spécifique, mais n'empêche, elle a quand même accès au Wi-Fi, donc vous pouvez quand même accéder à Internet avec, vous pouvez quand même lire vos mails avec, même si elle n'a pas les performances d'une tablette Samsung ou d'une tablette Apple, bien sûr. Autre solution, si vous avez déjà une tablette chez vous ou que ça ne vous intéresse pas d'avoir une tablette spécifique pour ça, vous avez des ustensiles qui existent. Notamment la société Belkin qui a sorti un accroche-tablette qui vous permet d'accrocher la tablette au mur ou d'accrocher la tablette à votre frigo et d'avoir un stylet pour utiliser la tablette, parce que on va en parler après, mais c'est vrai que la tablette n'aime pas non plus la farine. N'aime pas non plus les doigts trop sales.
N'aime pas grand-chose.
Donc voilà. Donc pour une quarantaine d'euros, vous pouvez avoir un porte-tablette qui vous permet donc notamment de la protéger et de pouvoir l'utiliser dans la cuisine. Donc on en vient à notre problème de salissure de la tablette, hein, puisque c'est vrai que une fois qu'on a commencé à faire la cuisine, on est bien embêté puisqu'on a les mains sales. Et que s'il faut vous laver les mains pour utiliser la tablette, ça revient même que d'aller dans le salon pour aller lire la recette sur
avec
l'écran.
Avec le nez, tu fais défiler.
Voilà, avec le nez, pourquoi pas. Donc les fabricants étudient de nouvelles solutions à ça. Alors ils ont essayé la reconnaissance vocale. Donc l'application Marmiton notamment utilise la reconnaissance vocale. Mais ils ont remarqué que malheureusement la reconnaissance vocale avait un problème, c'est qu'une cuisine c'est bruyant. Et que quand vous avez le mixeur qui tourne, la reconnaissance vocale marche moins. Donc voilà, ça reste un problème. Alors ils étudient d'autres solutions, notamment le claquement de doigts. Alors pourquoi pas en claquant des doigts pour changer, faire tourner la page par exemple.
Claquer 20 fois pour faire changer la page.
Donc voilà, c'est l'appli Cookineo dont je parlais tout à l'heure qui a essayé ça. Voilà, donc vous avez juste à claquer des doigts pour tourner la page. Malheureusement, si vous coupez votre oignon sur une planche en bois un peu trop fort, l'application peut tourner les pages toutes seules et ça peut être dommage. Donc voilà, ils étudient de nombreuses solutions. Alors, ils sont en train de mettre en place maintenant des outils connectés.
Le tablier, non ?
Le tablier, ouais. Non, en fait, ils essayent d'avoir des outils connectés, c'est-à-dire qu'en fait, vous auriez un économe, par exemple, avec un accéléromètre qui permettrait en fait de que la tablette sache que vous êtes en train d'utiliser votre économe et d'éplucher votre pomme de terre. Et que quand vous posez l'économe sur la table, par exemple, la tablette sait que vous passez à l'étape suivante. Voilà, ça peut être une solution. Ou pourquoi pas une cuillère en bois avec un accéléromètre qui permettrait à la tablette de savoir si vous tournez votre sauce suffisamment vite ou pas. Qui permettrait à la tablette de vous rappeler à l'ordre, de vous dire merci de tourner plus vite parce que là ça va pas.
La chantilly elle va pas monter.
Donc voilà, c'est des solutions qu'on pourrait avoir dans les années à venir.
Ça fait rêver, sincèrement. Voilà,
tu nous vends du rêve, là. C'est...
Ça fait rêver, mais c'est vrai que ça permettrait d'avoir une cuisine connectée, puisque votre tablette sait ce que vous feriez en temps réel. Il y a un célèbre fabricant de fours, qui est Seb, vous connaissez sûrement, qui a créé des fours avec une clé USB, et qui permet, en fait, en chargeant les recettes sur sa clé USB, de faire fonctionner le four exactement au temps qui est marqué dans la recette. Donc vous auriez pu vous embêter avec des temps de cuisson ou des températures de cuisson. Il vous suffit de mettre le plat dans le four, de brancher la clé et le four reconnaîtra automatiquement le temps de cuisson nécessaire. Donc voilà, c'est des exemples d'utilisation qui existent déjà. Alors, dernier point pour la cuisine connectée, on va faire un petit retour sur le CES de cette année.
C'est quoi le CES?
Donc pour rappel, pour ceux qui n'écoutaient pas les souris ne mordent pas en début d'année, puisqu'on en a parlé, le CES est un salon des nouvelles technologies qui a lieu à Las Vegas et dans lequel chaque année, en fait, en début d'année, on a un panel de ce qui peut sortir cette année. J'en avais parlé notamment sur ce qui pouvait nous attendre au cours de 2012. Dans ce salon CES, on a pu voir en fait le premier frigo connecté accessible aujourd'hui qui a été mis en démonstration. Voilà, donc qui montre que ça peut marcher. Et donc c'est vrai que c'est encore un frigo où on est obligé de scanner les codes-barres de ces produits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement des supermarchés Drive qui vous livrent à la maison, ça peut apporter un plus puisque effectivement. Aujourd'hui, vous scannez les produits et puis il peut passer directement commande dans un magasin.
D'ailleurs, en parlant de supermarché Drive, il y en a un qui va se monter à la place de l'ancien Leclerc culturel qui est à Rodez, là, et ça va se transformer en Leclerc Drive. Donc, du coup, vous pourrez faire commander toutes vos courses sur Internet et donc aller les chercher directement à ce Leclerc Drive. Quoi.
D'accord. C'est le dernier qui s'était pas lancé sur Rodez et qui va le faire. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant Parce que c'est vrai que ça permet de commander sur Internet et d'aller juste chercher les produits. Et donc pourquoi pas, avec le frigo connecté, vous n'avez même plus besoin de commander sur Internet, ça va commander directement.
Après, le problème à rajouter de l'électronique comme ça dans l'électroménager, je pense que ça peut faire aussi comme la voiture, où ça augmente le taux de panne, ça complique totalement les réparations, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc il y a quand même un gain, je trouve, assez minime par rapport aux défauts que ça peut générer, quoi.
C'est vrai qu'il y a quand même un gain assez minime, mais alors c'est vrai que le frigo en lui-même a beaucoup d'intérêt parce que on gère beaucoup de produits dedans, dont on a du mal à se souvenir. Après, c'est vrai que les autres appareils ont un intérêt quand même limité. Mais apparemment, les ingénieurs en attendent beaucoup de ce frigo connecté qu'on nous parle depuis des années. Donc moi, j'attends d'en avoir un. Mais bon, c'est vrai qu'après, je me vois mal scanner tous mes produits en rentrant du supermarché.
Ça pour serait savoir, un peu trop quelques packs de bière, tu sais.
Mais c'est vrai qu'il y a d'avoir un frigo qui vous rappelle que vous avez des steaks hachés qui vont périmer et qu'il faut les manger d'urgence avant qu'ils se perdent. Ça peut
ou si
ça
vous
pourrait être intéressant.
Si vous faites un régime aussi, ah non, ça c'est pas autorisé.
Voilà, donc c'était la cuisine connectée, en espérant que ça vous ait donné faim. Et donc on va se faire une petite pause, et puis après, une fois que vous avez tous ces appareils électroménagers qui vont tomber en panne assez rapidement, on va voir ce qu'on en fait avec Guillaume et l'obsolescence programmée. À tout de suite en CFM. C'était Björk dans Les souris ne mordent pas en CFM, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies. Et puisque la nouvelle technologie, c'est quand même assez fragile, nous allons parler tout de suite avec Guillaume de...
D'obsolescence programmée. Alors, un grand mot, n'est-ce pas, ou deux grands mots. Concrètement, l'obsolescence programmée, on en a un petit peu entendu parler en 2011 sur les produits ménagers. Votre machine à laver, en fait, qui est programmée pour durer 4-5 ans, votre frigo, hein. Normalement 8 ans, mais bon, la petite pièce à faire qu'au bout de 4 ans. Donc cette obsolescence, elle existe, programmée, elle existe depuis très longtemps. Elle existe en gros depuis 1940-1950. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bas nylon. En 1940, il y a Dupont qui fait des bas, mais ils sont tellement bien que plus personne n'en achète en fait, parce qu'ils filent jamais, quoi. Donc ils sont obligés de modifier la recette, de baisser les additifs là-dedans pour revendre des bas nylons. Donc quand vos... Je vous regarde là. Si vos bas se filent en fait, c'est parce que
tout à fait, oui.
C'est l'obsolescence programmée, quoi. C'est une conséquence. Alors pour l'informatique,
moi je connaissais l'histoire de l'ampoule, mais pas du bas. Donc
ah, tu connais l'ampoule, vas-y.
C'était la même histoire qui fait que les ampoules avaient une durée de vie de 10 000 heures réelle, mais que effectivement, 10 000 heures c'était trop et que les fabricants d'ampoules n'en vendaient plus et que donc ils ont modifié le filament à l'intérieur de l'ampoule et qu'aujourd'hui les ampoules ne durent plus. Les 10 000 heures indiquées sur l'emballage.
Exactement, mais alors j'aime mieux que les 10 000 heures, j'ai une ampoule centenaire une ampoule à incandescence qui est à la caserne des pompiers de Livermore en Californie. En fait, elle brille depuis 1901. Elle est inarrêtable. Alors bon, effectivement, les fabricants sont mis, ils ont fait un cartel en fait pour baisser à 10 000 heures, à 1 000 heures la durée de vie d'une ampoule, quoi, histoire de vous faire changer et de consommer là-dessus, quoi. Voilà, quoi. Alors le problème avec cette politique d'obsolescence programmée, c'est que ça a vraiment un impact écologique important, puisque ça nous oblige chaque 3 à 5 ans à racheter du matériel. Avec des matières premières qui quand même ne sont pas illimitées sur la planète.
Mais Apple a fait mieux puisque ils sortent tous les ans une révolution qui fait changer le matériel quand même.
Ah, ça s'appelle le marketing. Ouais,
faut tout racheter. Mais...
Voilà. Alors mon carton rouge de cette semaine, ça va concerner deux constructeurs de disques durs que vous devez sans doute connaître, Seagate et Western Digital. Alors ils viennent en fait depuis janvier 2012 de changer leur durée de garantie. Avant, quand vous achetiez un ordinateur ou un disque dur à l'unité, la durée de garantie était souvent de 5 ans, voire de 3 ans. Là, maintenant, elle passe en fait au maximum à 3 ans, et pour certains produits, à 1 an. Donc, vous achetez un disque dur à 50, 60 euros, ben, 1 an de garantie, quoi. Et derrière, en fait, ils vont vous faire acheter de l'extension de garantie, quoi, payante, quoi.
Ouais. Encore de l'arnaque, ça.
Mais comme partout, en fait. C'est programmé pour durer 3 ans, et derrière, ils te revendent 2 ans à 15 euros l'unité, quoi. Donc un gros carton rouge parce que ça va obliger les responsables de parcs informatiques, d'entreprises par exemple, à devoir ou prendre cette extension de garantie ou tous les 3 ans changer les disques durs. Donc là, une consommation, un renouvellement de matériel, de composants électroniques qui sont totalement superflus, que dans un but de marketing et gagner plus d'argent. Voilà, donc gros carton rouge là-dessus, quoi. Après... Pour continuer là-dessus, je voudrais vous parler des moyens un petit peu pour économiser ce matériel-là qui nous impose en fait à renouveler très très souvent. Alors quelques petits conseils, par exemple sur l'ordinateur portable. Lorsque vous achetez un ordinateur portable, la batterie en fait est programmée pour durer entre 500 et 1000 cycles complets. Donc si vous déchargez partiellement la batterie de votre ordinateur portable à 50% avant de la recharger complètement, cela compte pour un demi-cycle. Donc, si vous avez une grosse utilisation de votre ordinateur portable, à une décharge complète par jour, vous arriverez à presque 3 ans de durée de vie. Donc voilà, les batteries sont vraiment le point sensible sur les appareils, sur ces appareils mobiles. Alors, un petit conseil aussi, c'est les hautes températures sur tout ce qui est batterie de téléphone portable, batterie d'iPad, d'ordinateur portable. Ne laissez pas vos ordinateurs portables, par exemple, sur les lunettes arrière des voitures, parce que ça craint la chaleur, les hautes chaleurs au-delà de 45 degrés. Ça se décharge et ça perd en qualité, quoi.
Puis, personnellement, ça crème la chaleur, mais ça crée aussi les vols, hein, donc.
Alors, en parlant de la chaleur, surtout sur les ordinateurs portables, j'aimerais parler d'un petit ustensile qui est sorti par Logitech et qui s'appelle le Cooling Pad, qui permet, en fait, quand vous utilisez l'ordinateur portable sur vos genoux ou sur un canapé, il faut savoir qu'ils aiment pas du tout, puisqu'effectivement, la batterie ne peut pas se refroidir. Et surchauffe, donc voilà, ce petit appareil vous permet d'avoir un ventilateur qui aère l'ordinateur. Ça coûte une 30aine d'euros, je crois, et ça rallonge grandement la durée de vie des ordinateurs portables.
Ouais, ça préserve, quoi. Donc voilà. Faut consommer pour préserver votre matériel. C'est...
Alors ça consomme pas énormément, ça se branche en USB sur l'ordinateur portable, et c'est vrai qu'en plus ça évite de vous chauffer les genoux. Donc
ça use la batterie en plus, voilà, c'est... on revient dans ce cycle.
Donc voilà, donc pour les batteries, si vous voulez essayer d'y faire attention, surtout faites gaffe à la chaleur, ils sont super sensibles. Donc pareil, je pense pour les tablettes certaines dans la cuisine aussi.
Ouais, n'opposez pas les tablettes sur des plaques chauffantes, elles aiment pas du tout.
À part la couque, là, qui a 70 heures d'info. Voilà, donc ça c'était pour les batteries des ordinateurs portables. Après, au niveau de l'encre, il y a une manière très simple, vous devez la connaître, ça s'appelle, c'est une police en fait spéciale, où il y a des petits trous à l'intérieur, et ça vous permet, elle s'appelle EcoFont, développée par une société de communication néerlandaise, c'est une police d'écriture en fait qui a des petits trous à l'intérieur. Et donc ça permet 20% d'économie, donc le bon plan, si vous voulez économiser, si vous avez beaucoup d'impressions, faut voir que je crois qu'il y a plus de 16% des pages qui sont jamais lues imprimées en France, donc...
Ouais, n'imprimez pas déjà. Premier conseil, n'imprimez pas ce qui est complètement inutile. Voilà, c'est déjà un gros progrès. Mais c'est vrai que l'obsolescence programmée dans le monde des imprimantes, c'est assez impressionnant. On en a souvent parlé dans CFM.
C'est un art de vivre.
Ouais, voilà. Je sais pas si t'as prévu d'en parler, mais les imprimantes quand même ont un nombre de pages programmées et que arrivées à ce nombre de pages, en fait, elles s'arrêtent. Donc c'est fait prévu par les fabricants. Et il faut savoir qu'il existe sur Internet des astuces pour relancer son imprimante qui permet de reprogrammer en fait
de rallonger
de pages, voilà. Que c'est illégal parce qu'en fait vous êtes propriétaire de l'imprimante mais pas du logiciel qui est dedans, il faut le savoir. Bon, on viendra pas vous chercher, hein, peut-être qu'Adopi un jour vous chassera pour ça, mais voilà, l'obsolescence programmée dans le monde des imprimantes, c'est vraiment un art de vivre.
Ouais.
Mais je me demande, cette idée c'est vachement sympa là, de la police, mais je me demandais un truc. Est-ce que tu as montré l'exemple, Guillaume? Est-ce que tu as imprimé avec
ce police? J'ai pas eu le temps. Je déteste les imprimantes.
D'accord.
Mais il paraît que, alors c'est une étude encore hyper sérieuse, qui a démontré qu'il est plus écologique de lire sur du papier que de lire sur un écran. Puisque effectivement, l'impression sur le papier a une empreinte écologique moindre par rapport à l'utilisation d'électricité nécessaire pour lire sur l'écran. Donc voilà.
Vive le papier.
Vive le papier, mais voilà, c'est toujours pareil. Faut pas imprimer pour rien. Hein. Une fois que vous avez imprimé quelque chose, vous pouvez le lire et le partager après autour de vous. C'est pareil. Hein, on en parle souvent de ne pas envoyer des pièces jointes trop lourdes par mail, mais plutôt de la partager grâce à des sites spécialisés pour justement économiser l'électricité, la bande passante et tout ça, quoi.
Alors sur ce thème d'économiser, là, j'ai quelques petites astuces à vous communiquer si cela vous intéresse. Par exemple, pour réduire la consommation de votre appareil mobile et donc de gagner en autonomie, hein, un petit peu le talon d'Achille de nos chers smartphones.
Ne l'allumez pas.
Ne l'allumez pas, ne le prenez pas avec vous. Sinon, si vous voulez vraiment vous en servir, je parle aussi pour les écrans tactiles, CRT et LCD, différents types d'écrans. Le plus facile, en fait, c'est de baisser la luminosité de l'écran, car plus votre écran est lumineux, plus en fait votre appareil consomme de l'énergie. Donc si vous souhaitez, si vous êtes un petit peu à l'arrache sur la batterie de votre smartphone, c'est de baisser la luminosité, vous y gagnerez quelques précieuses minutes pour répondre à un SMS ou autre. Voilà.
Alors vous pouvez aussi l'éteindre quand vous ne captez pas. Ça paraît bête.
C'est fou ça.
On capte pas des fois. C'est...
What?
Des fois on capte pas. Oui, à Rodez on capte pas. Non, mais quand vous ne captez pas, il faut savoir que l'appareil consomme énormément pour essayer de se connecter. Donc des fois, si vous êtes dans une salle de cinéma par exemple que vous ne captez pas ou que ça ne sert à rien que vous captiez puisque vous ne décrochez pas, c'est mieux de l'éteindre pour effectivement économiser la batterie, quoi.
Alors après, à ce propos de toujours réduire la consommation, il y avait une étude en 2009, un blogueur avait calculé que si la page de Google, plutôt que d'être blanche, était noire, avec le nombre de millions de CRT qui consomment plus avec une page noire qu'avec une page, qui consomment plus avec une page blanche qu'une page noire, on aurait eu des centaines de mégawatts d'économiser en énergie, quoi.
Il me semble que tu peux changer la couleur de la page Google avec e-Google ou un truc dans le genre, il me
ouais,
semble. Ouais,
on peut changer. Alors, il y a Blackle qui se spécialise là-dedans, et donc c'est du Google sur un fond noir.
Et imprimé en écrit en blanc sur une page noire, est-ce que ça consomme plus d'encre?
Je pense. Donc faut voir quand même, faut se méfier de ça, parce que c'était vrai la page blanche pour les écrans CRT. Par contre, il y a des études qui ont montré que pour les LCD, en fait, c'est la page noire qui consomme plus de d'énergie. Donc on est précis, hein. Non, si vous avez un CRT.
Qu'est-ce qu'un CRT?
C'est les gros écrans.
Les bons vieux gros écrans.
Tu vois, j'en fais partie, moi, alors je me sens concerné.
Ceux qui font 50 cm de profondeur.
Et encore.
Ça, c'est un CRT. Et donc là, vous devez avoir Google en noir si vous voulez consommer peu d'énergie.
Ah, mince.
Mais si vous avez un LCD, dans ce cas, vous pouvez rester en Google avec une page blanche, parce que là, vous consommerez moins qu'une page noire.
Il faut savoir quand même que les écrans LCD ont quand même une durée de vie moindre par rapport aux écrans, aux bons vieux écrans à tube cathodique qui, eux, pouvaient durer des années, quoi.
Mais là, le mien est 7 ans d'existence. Pour le moment, il se porte très bien. Donc, ça va.
Alors après, si vous voulez pousser cette réduction de la consommation et vous êtes des ardents défenseurs de la cause écologique, il y a un moteur de recherche spécial écologique. Ça s'appelle Ecogine. .org, Ecogine. Bien, donc le fond est bien sûr noir. Et l'intégralité des recettes issues de vos recherches sont reversées à des associations à but environnemental. Donc si vous voulez faire des recherches et en plus aider ces associations-là, Ecogine.org permet de reverser 0,15 centimes à chaque recherche. Voilà. Sinon.
Donc vous consommez toujours autant, mais vous faites un bon geste, donc.
Voilà.
Vous n'avez pas de remords. C'est bon.
Consommez un peu plus citoyen ou responsable, on va dire. Donc sinon, les derniers petits conseils que je peux vous donner pour allonger la durée de vie de vos appareils électroniques, c'est de débrancher votre matériel quand lorsque vous absentez. Même la box. Souvent, les gens oublient de débrancher la box et la foudre peut passer là-dessus et bien sûr toucher votre ordinateur et l'exploser littéralement, quoi.
Et l'avantage de débrancher la box, c'est qu'on est quand même beaucoup moins dérangé au téléphone que quand elle est branchée, donc. Hein.
Voilà. Après, alors, dans le recyclage, pour être très précis, hein, il y a quelques sites spécialisés dans le téléphone portable. Je me suis amusé à regarder les HTC, par exemple. Il y a trois sites qui permettent de recycler les téléphones. Je pense qu'Alexis, tu vas pouvoir nous parler des ordinateurs portables, parce qu'en plus de ces matériels-là, c'est important avec la pénurie des ressources naturelles qui devraient apparaître dans quelques années.
Alors, la plupart des sites aujourd'hui qui rachètent vos téléphones rachètent aussi vos ordinateurs portables. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai que ça peut avoir de la valeur apparemment. Puisque même des très très vieux téléphones, ils arrivent quand même des fois à vous les racheter. Donc c'est comme quoi votre matériel a de la valeur. Donc c'est le moment de faire les fonds de tiroir, quoi.
Ben d'après l'OCDE, en fait, l'OCDE a estimé que les réserves de cuivre, plomb, nickel, argent, étain et zinc ne dépasseraient pas 30 fonds de nez. C'est clair que la question du recyclage, en plus d'avoir un but environnemental, a aussi un impact financier de plus en plus important. Donc recycler-moi.fr, bac2.fr, et mon préféré, c'est mon Nextel, quoi. Nextel.com. Alors, votre téléphone, s'il a aucune valeur marchande, ils vont quand même vous le reprendre. Mais si c'est, on va dire, un smartphone, ils vont vous le reprendre pour une cinquantaine d'euros la plupart du temps, quoi. Après, si vous avez vraiment des vieux ordinateurs et que vous voulez vous en débarrasser, ne pas les laisser traîner dans la cave. Il y a comme ça aussi des associations ou des sites qui existent. Et il y a un portail officiel qui s'appelle ordi2-0.fr. Donc ça, si vous aurez tous les conseils, on va dire, officiels pour recycler vos vieux ordinateurs, vos vieux écrans.
Et alors moi, je rajouterai un point avant de vous débarrasser de votre ordinateur. Sachez qu'il peut toujours servir. Et on parle souvent des logiciels libres dans cette émission. Alors, les logiciels libres ont un avantage sur le système d'exploitation Windows, hein, c'est que ils fonctionnent sur des vieux ordinateurs. Donc voilà, vous avez un ordinateur qui a 3 ou 4 ans et qui aujourd'hui a énormément de mal de fonctionner avec Windows, des fois simplement en le réinstallant avec des systèmes d'exploitation libres, il fonctionne très bien et vous pouvez aller sur internet sans problème, travailler sur des outils bureautiques sans aucun souci. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par cette première étape. Et on peut citer sur Rodez une association qui s'appelle l'ARU2L, qui est l'association des utilisateurs de logiciels libres, si je ne me trompe pas, qui ne m'en veuille pas si je me trompe, et qui vous aideront à réinstaller des logiciels libres sur votre vieil ordinateur pour pouvoir le réutiliser. Et c'est vrai que des fois, quand on a un ordinateur dont on ne se sert plus, il peut toujours être utile pour les enfants ou un dépannage dans un coin de la maison, des fois plutôt que de le jeter. Il peut déjà servir à ce moment-là.
Ouais, il faut bien voir que les éditeurs donc de logiciels participent aussi à ce phénomène d'obsolescence programmée et font toujours des nouveaux logiciels qui sont de plus en plus gourmands, alors que l'utilisation est toujours la même, quoi. La bureautique n'a pas évolué, alors que la suite bureautique Office demande beaucoup plus de puissance qu'avant, quoi.
Tout à fait. On en parle souvent dans l'émission et c'est vrai que en plus on utilise 10% de son ordinateur. Donc des fois, avoir un ordinateur peut-être 90% moins performant suffit largement en fait à l'utilisation.
Mais ça se calque sur le marché du jeu vidéo, ça en fait. C'est plus les jeux vidéo demandent une certaine configuration, plus les PC.
L'exemple le plus flagrant là-dessus, c'est Battlefield 3, hein, qui demande le système d'exploitation Vista ou Windows 7, mais si tu as XP, tu peux pas, quoi.
Ouais.
Donc ça oblige des millions de gens à racheter un ordinateur pour pouvoir jouer à ce jeu, quoi. Ça contribue à ce phénomène-là, quoi. Donc t'as d'un côté les constructeurs qui eux programment et en plus les éditeurs de logiciels qui sont copains avec eux, quoi. Plus un petit coup de marketing et vous avez une course à la consommation et aux nouveaux produits infernal dont on se fait un petit peu pas les défenseurs, mais on essaie de vous prévenir là-dessus, quoi, parce qu'il faut pas être dupe de cette volonté économique derrière, quoi.
Dernière solution, donc si jamais vous jetez quand même votre ordinateur, il y a des associations qui les reconditionnent, dont une à Rodez qui s'appelle l'association RAC, voilà, qui est basée à Rodez et qui permet de reconditionner l'ordinateur pour le donner ensuite à des personnes dans le besoin. Voilà, ça peut aussi être une solution plutôt que d'emmener l'ordinateur à la déchetterie où il sera recyclé, mais pas réutilisé.
Voyez.
Voilà, l'association permet de réutiliser le matériel. C'est la première étape du développement durable, c'est-à-dire que avant de le recycler, on regarde si on peut réutiliser le matériel. J'aimerais, si tu me permets,
bien sûr,
mettre un carton rouge aussi aux opérateurs mobiles qui subventionnent les téléphones portables et qui encouragent les gens à changer de téléphone portable tous les 2 ans. Voilà, chose qui est complètement inutile. Voilà.
J'ai même vu que les moins de les 12-17 ans changent de téléphone portable tous les 10 mois. Donc à fond dans le marketing des nouveaux téléphones.
Voilà, tout à fait. Donc je me permets personnellement de mettre un carton vert à Free Mobile qui est le premier à ne pas subventionner les téléphones portables qui permet aux gens de se rendre compte du vrai prix de leur téléphone portable. Donc voilà, il faut arrêter de changer de téléphone portable tous les 2 ans, ça sert strictement à rien.
Ah, mon téléphone, après, il marche plus, mon frigo avec.
On le sait que Free Mobile c'est bien, oh là là.
Et acheter Nokia, c'est les meilleurs téléphones qui durent longtemps.
Ouais, voilà, donc juste pour conclure, là, on va dire ce dossier un petit peu écologique, pour être très complet, le samedi 31 mars 2012, de 20h30 à 21h30, il y a l'opération Une heure pour la planète, en fait. C'est plus d'un milliard de personnes vont éteindre leur lumière, donc vous pouvez aussi y participer pendant une heure, donc pour participer et sensibiliser à la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, donc le samedi 31 mars de 20h30 à 21h30.
Merci Thibaut, merci Guillaume et bien sûr à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook de l'émission Les Souris ne mordent pas, sur le site internet cfmradio.fr. Vous pouvez nous réécouter si jamais vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez réécouter les anciennes émissions. Et voilà, bonne semaine à tous, au revoir.
Ciao.
Salut.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.